dans l'auberge espagnole dans laquelle on reçoit à présent Aimé Malet. Bonjour Aimé.
Bonjour.
Alors, on peut te présenter comme un des piliers du Café Philo à Montpellier ?
Oui, je suis du canal historique.
Voilà, canal historique du Café Philo de Montpellier, qui, rappelons-le, est le plus ancien Café Philo des Cafés Philo.
Absolument. Ouais.
Voilà. Pour la petite histoire, on est là pour parler d'un cercle, d'un groupe, d'une... Non, ce n'est pas une secte. C'est le groupe Bilderberg qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, me semble-t-il, s'amuse à réunir chefs d'État, chefs d'entreprise transnationales, maîtres du monde en puissance, commissaires européens, dont on sait qu'ils sont toujours... qu'ils sont jamais les derniers à céder au champ des lobbies militaro-industriels. Et ça s'est passé du 31 mai au 3 juin, donc ça s'est passé à Chantilly, non pas en Suisse, mais en Virginie, aux États-Unis, puisqu'il y a aussi des Montpellier et des Paris aux États-Unis, on y retrouve toutes les villes, et non pas pour manger de la crème fouettée, mais pour faire cette fameuse réunion à 40 bornes de la Maison Blanche, entre puissants européens et américains, puisque c'est comme ça que le cercle de Bilderberg se définit lui-même, comme un forum européen-américain. Tous les ans, ils se réunissent et cette année, sous la présidence du PDG d'AXA, Henri de Castries, AXA qui est une compagnie d'assurance bien connue pour tenir son rôle d'assureur et non pas de mutuel. Donc vraiment un truc qui est là pour faire du fric. Ce qui choque pas mal d'observateurs, c'est que là où dans les autres pays on en parle abondamment, même avec des titres un peu racoleurs comme les conspirateurs, etc. En France, c'est le blackout total sur cette rencontre 2012.
Oui, c'est un peu habituel, je dirais. Peut-être parce que nous sommes un peuple un petit peu rétif et que les autres sont tellement habitués à être matraqués qu'on peut leur dire certaines choses. Et puis cette année est un peu spéciale puisque nous avons un nouveau président socialiste et que, vous l'avez rappelé, le président actuel de Bilderberg, c'est le patron d'AXA qui s'est défini lui-même comme un ami de François Hollande. Alors peut-être ceci, faut-il dire cela, quoi.
Oui, François Lamy, qui est le chef de l'OMC, se définissait lui-même aussi comme un socialiste.
Pascal Lamy
est
toujours d'ailleurs le directeur de l'Organisation mondiale du commerce et participe régulièrement aux rencontres de Bilderberg.
Alors c'est là qu'on décide un petit peu des grandes orientations de ce qu'il va falloir dire aux États pour qu'ils daignent bien s'inscrire dans l'intérêt des gens du cercle Bilderberg.
Alors oui, c'est ça en quelque sorte, mais je voudrais faire deux remarques. Pourquoi la philosophie s'intéresse à Bilderberg? Je crois que la philosophie toujours a essayé d'être contre l'obscurantisme et de jeter la lumière sur ce qu'on ne voit pas. Et elle dit aux gens qui sont dans la caverne d'aller voir la lumière dehors. Quoi.
Absolument.
Donc, si on s'intéresse à Bilderberg et autres organisations transnationales, c'est justement pour montrer qu'en fait, il n'y a pas tellement de complots comme on l'imagine des gens qui tirent les manettes et tout ça et tout. Il y a simplement dans notre système, qui est le système capitaliste, pour dire en gros mots, quoi, des gens qui veulent faire du profit et puis d'autres qui sont dans la misère. Et en France, on a 11 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc il semble intéressant de révéler qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est qu'on peut mettre sous les feux des projecteurs. Et je voudrais citer Rockefeller, pas n'importe qui. Il y a 20 ans, Rockefeller, dans une conférence de Bilderberg, disait ceci. Je tiens à adresser mes remerciements au Washington Post, au New York Times, au Time Magazine et à d'autres importants organes de presse dont les directeurs ont assisté à nos réunions et tenu leurs promesses de discrétion pendant près de 40 ans, depuis 1954. Nous n'avions pas pu développer notre plan pour le monde si nous avions été exposés au regard de l'opinion publique pendant toutes ces années. Mais le monde est maintenant plus complexe et mieux préparé à s'acheminer vers un gouvernement mondial qui ne connaîtra plus jamais la guerre, mais seulement la paix et la prospérité pour l'humanité tout entière. La souveraineté supranationale d'une élite d'intellectuels et de banquiers mondiaux est certainement préférable à l'autodétermination pratiquée au cours des siècles passés. C'est de 1992, la ligne n'a pas changé. Donc ça explique un petit peu le silence des médias en détail, je dirais. Et puis le fait que ces gens-là, au fait, ne se cachent pas, quoi. Alors comment ils peuvent influer sur les politiques ? Tout simplement parce que, comme le GATT, l'OMC, Davos, la trilatérale. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord que ce soit un cercle américain, occidental. Actuellement, on trouve des Grecs, par exemple. Il y a un Grec, très curieusement, là, on dit tout le temps la Grèce est en faillite, mais qui participe au sommet de Bilderberg aujourd'hui ? C'est le ministère de l'Intérieur, lui-même. Qui est un patron aussi d'entreprise. Bon, on trouve des Israéliens, on trouve des Russes, on trouve ils ont agrandi à plein de pays, quoi. C'est un endroit où on fait du think tank, c'est-à-dire où on réfléchit à des orientations qui sont transformées de manière concrète par la création de l'OMC en 1994-95, dont Pascal Lamy fut un des patrons. Et actuellement, on est dans un cycle de Doha de ces gens-là.
Oui, donc il s'agit bien quand même de gens qui ont suffisamment le sentiment d'être puissants pour se dire bah, finalement, on peut fixer le cap. Finalement, les démocraties ne sont qu'une étape transitoire vers un espèce de nouvel ordre mondial. Alors là, on pense tout de suite à la patte américaine hein, sur le New World Order. Et comme tu le disais, il ne se cache pas, et puis il ne se cache pas non plus pour donner des recommandations aussi. Quoi. Ça peut aller jusque-là.
Bon, c'est eux qui ont orienté la politique européenne, monétaire en particulier. D'avoir une seule monnaie en Europe est plus facile qu'en en avoir 10 ou 12 à attaquer quand on domine la monnaie dollar. Hein. Dès lors qu'on maîtrise une monnaie qui est la monnaie d'échange internationale, fabriquer une seule monnaie à combattre en face, et on le voit aujourd'hui, ce qui se passe avec l'euro, hein, bon, ça fait partie de ce qui s'est concrétisé après multiples réunions de Bilderberg. Alors, je voudrais dire quand même qu'à l'origine de Bilderberg, c'est-à-dire dans les années 50, ce fut une organisation qui a été créée essentiellement pour lutter contre l'anti-américanisme qui déjà commençait à se développer dans cette Europe un peu suspecte pour les Américains. Et les grands initiateurs en Europe de l'alliance à Bilderberg, ce furent Antoine Pinay, spécialiste de la monnaie, nous dit-on, et Guy Mollet. Guy Mollet, déjà un socialiste, SFIO, grand réprimeur des grèves ouvrières à coups de canon sur le carreau d'Alès, pas très loin d'ici, dans les mines d'Alès. Hein. Donc ces gens-là, déjà, étaient dans des liaisons transnationales, quoi, hein, au début, au tout début du Bilderberg.
C'est l'époque aussi où les géants comme Monsanto se créent avec l'idée aussi de se dire si on contrôle la nourriture, on contrôle la population. Et puis c'est cette parole de Rockefeller qui dit justement bah oui, ce serait mieux justement si les élites se donnaient la main plutôt que d'avoir comme ça des États, etc., qui ont leur autonomie et qui font un peu n'importe quoi, pour qu'il n'y ait plus de guerre, etc. Alors ça a l'air comme ça de partir d'un bon sentiment. Dans la littérature, on trouve plein de gens très sérieux qui disent, bah oui, mais enfin, pour asseoir le pouvoir, il vaut mieux que la population soit un peu analphabète, un peu pauvre, comme ça, elle n'a plus les conditions de s'émanciper, et ça renforce le pouvoir des quelques-uns. Donc, c'est pas une entreprise philanthropique.
Ça dépend de quel point de vue de la philanthropie on se place. Je dirais que, vu de leur côté, ils sont très philanthropes pour eux-mêmes. Ceci dit, ce sont des gens qui raisonnent de manière froide, et je voudrais rappeler quelques noms quand même. Strauss-Kahn a fait partie de Bilderberg, Kissinger, l'homme des guerres américaines, Javier Solana, l'espagnol, Soros, le banquier bien connu escroc, Agnelli, Fiat, Chrysler, Daimler, Goldman Sachs, Motorola, Novartis, pour des personnalités, Kouchner, Richard Perle, qui fut pour la guerre en Irak et qui a fait la guerre en Irak. Tous ces gens-là, en fait, je dirais, on sait que dans le monde, il y a 737 ou 727 compagnies transnationales qui contrôlent 80% de l'économie mondiale. Il est bien naturel, je dirais tout à fait naturel, je ne dis pas que c'est normal et je ne l'excuse pas, que ces gens-là regardent leur intérêt. Leur intérêt, c'est de faire du profit. Alors, faire du profit, ça veut dire qu'à un moment donné, il peut y avoir des gens qui gênent, ou des gens dont on veut s'accaparer les richesses. Donc le problème de la guerre ne se pose pas de manière éthique pour eux, mais comme une structure, une méthode. C'est ce qu'on a toujours dit, quoi, hein, que la guerre, c'est l'économie par d'autres moyens, quoi, c'est la politique économique par d'autres moyens. Bon. Donc ces gens-là n'envisagent la destruction d'êtres humains dans des guerres que comme, en fait, un moyen d'accéder à ce qu'ils appellent, eux, la prospérité pour tous. Mais nous voyons bien que la prospérité pour tous, ça se compte par des millions de chômeurs dans toute l'Europe et dans le monde entier, par des famines, par des misères, par des crimes odieux un petit peu partout. Donc c'est vrai qu'il y a un double discours, mais je dirais que c'est un discours pour eux, quoi. Et ces élites, et on voit bien le décrochage qu'il y a eu en France entre le peuple et les élites, ben c'est au niveau transnational qu'on assiste à ce fait que pour eux, nous sommes des surnuméraires en grande partie, et qu'eux doivent réguler tout ça de la manière la plus optimale possible, c'est-à-dire, c'est là, toujours, pour eux, on est dans le règne de la nécessité.
Alors il y, y a aussi quelque chose qui fait tiquer un petit peu, c'est le fait que de nombreux chefs d'État ou responsables politiques ont accédé à leur fonction après être passés par Bilderberg, qu'il s'agisse des chefs d'État américains, de commissaires européens, de responsables politiques ou institutionnels. Et là, on a un petit peu l'impression que là encore, enfin, ça laisse à croire que bah, finalement, c'est eux qui décident. Plus facilement que les urnes. Alors ça peut paraître facile aux États-Unis où le suffrage indirect permet certaines fantaisies, mais tout ça, ça leur donne une aura quand même de trucs un petit peu secrets, etc. Alors que bon, ça l'est pas vraiment.
Je pense pas encore une fois que ce soit un complot secret. Quand on voit qu'en France, l'ensemble des médias, je dis bien l'ensemble des médias, est contrôlé par 3-4 groupes qui sont des groupes liés directement à l'armement. Je dirais que ces gens-là n'ont pas intérêt à ce que la population sache des choses, bon, que ça soit révélé. Donc il y a une petite partie de secret dans ce boulot, mais dans tout job il y a des secrets. Je veux dire, quand il y a des mecs qui dealent à la paillade ou dans les quartiers nord de Marseille ou quand même des Kalachnikov, ils vont pas le publier sur un blog, quoi, je veux dire. Donc, c'est un petit peu pareil, quoi, c'est du banditisme d'État. Alors pour en revenir aux politiques, il faudrait peut-être revenir sur la question de ce qu'est l'État. Est-ce que l'État, c'est quelque chose que nous élisons avec un bout de papier une fois tous les 5 ans et que les gens ont un programme, tout ça et tout? Nous savons depuis bien longtemps, et Marx l'a remarquablement décrit, c'est que le personnel politique, quel que soit son niveau, est l'émanation de puissance d'argent ou de puissance industrielle. Il n'est pas l'émanation de la démocratie. On voit bien dans le pays que la démocratie peut très facilement être faussée par exemple, tout d'un coup, on sort un terroriste à Toulouse qui se fait abattre. On ne voit pas son corps, mais il a serré la main à Squarcini, qui était le patron de la DCRI. Il y a quand même des choses curieuses. Aujourd'hui, Bilderberg se déroule sous nos yeux, vient de se dérouler, et on nous parle d'un mec un peu bizarre qui assassine des gens et des dépèces. Et à longueur de journée, c'est ce qu'on entend à la radio. Hier, j'écoutais un reportage sur France Info qui disait qu'il y a une baleine qui s'est échouée à Marseille, il faut la transporter jusqu'à Clermont-Ferrand. Ça a duré une émission passionnante, au demeurant, mais bon, ça a duré très longtemps. Mais où est le peuple? Où est l'économie? Où est Bilderberg? Où est la réalité des choses? Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire, et je remercie Divergence FM de le faire, il y a beaucoup d'efforts à faire pour accéder à la connaissance. Il n'y a que la connaissance. C'est pas en disant, il y a un complot, malheur, on ne sait pas d'où ça vient, c'est la fin du monde. Non, c'est pas ça. C'est tout simple, il suffit d'aller fouiller des sources, et il existe des sources avec l'Internet et bien d'autres choses. Il faut s'informer, connaître.
Alors, nous à Divergence, on est très Linux, logiciel libre, etc. Et c'est vrai qu'on suit l'actualité numérique très régulièrement. Et c'est pas un hasard si Nelly Kroes, la commissaire européenne chargée de la société numérique, qui fait la preuve quotidiennement, on va dire, de sa mésintelligence avec ce que voudrait le bien commun. Mais ça, on est habitué. On a eu des ministres en France qui se sont illustrés très brillamment dans leur bêtise ou leur méconnaissance des sujets, hein, comme Christine Lagarde qui disait que le traitement de texte OpenOffice était un antivirus, enfin un firewall, enfin bon, bref. Et donc on retrouve quand même des gens qui s'illustrent, on va dire, du côté le plus antisocial de la barrière toute l'année et qui sont conviés, alors même si on retrouve une représentante de l'opposition syrienne dans le tas, mais voilà, c'est pas un repère des gens dont on applaudit tous les jours la politique ou les décisions.
Alors ce qui devrait faire peut-être réfléchir, c'est que justement, on trouve à Bilderberg une représentante de l'opposition syrienne. Ça devrait un petit peu ouvrir les yeux, et quand on voit le bilan de ce qu'on a appelé les printemps arabes aujourd'hui, socialement parlant, je dis, hein, socialement parlant, et politiquement, parce que c'est les mêmes. Bon. Je crois que ça devrait nous titiller l'oreille, ces choses-là. Pourquoi on invite, de même qu'on invite un russe, et très curieusement c'est Kasparov, c'est-à-dire droit de l'homme, etc. Mais nous savons que les meilleures guerres dernières ont été faites en particulier en Yougoslavie, un petit peu partout, au nom des droits de l'homme. En Libye aussi c'était au nom des droits de l'homme. Donc je crois que c'est là où il faut exercer notre vigilance et notre doute critique. Je ne remets pas en cause la représentation de l'opposition syrienne, mais je dis... Pourquoi ces gens-là vont à Bilderberg s'ils disent qu'ils sont du côté du peuple, alors que par ailleurs, les gens dont vous avez cité s'opposent au peuple? Je citerai une dernière parole de Rocard, par exemple, Michel Rocard, fondateur du PSU, de gauche, tout ce que vous voulez et tout, qui dit de toute façon la Grèce, le seul moyen de régler le problème en Grèce, c'est d'avoir un gouvernement militaire. Alors qui est de gauche, qui est de droite? Moi je suis perdu, franchement. Donc c'est pour ça que Bilderberg, pour moi, c'est pas un complot, c'est des gens qui font du business. et qui se donnent les moyens politiques de faire aboutir leur business. En nommant des gens et en faisant croire avec les médias que celui-là est de gauche, celui-là est de droite, chacun des deux sort de l'ENA ou d'ailleurs. Donc c'est un petit peu le même moule, le même formatage. Et peut-être nous sommes dans la caverne de Platon encore une fois. Nous regardons un spectacle où on nous présente du rose, du rouge, du bleu, du vert sur l'écran de la télévision électoraliste. Et puis si on se retourne et qu'on regarde la lumière, peut-être qu'on voit les choses plus dépouillées et qu'on assiste simplement à des gens qui volent dans nos poches quand on a le dos tourné. Can't tell me life was meant to be like this. A black man in a world dominated by whiteness. Ever since the Declaration of Independence, we've been easily brainwashed by just one sentence. It goes, all men are created equal. That's why corrupt governments kill innocent people. With chemical warfare, they created crack and AIDS. Got the public thinking these were things that black folks made. And every time there's violence shown in the media, usually it's a black thing. So where are they leading you? To a world full of ignorance, hatred and prejudice. TV and the news for years, they have fed you this. Foolish notion that blacks are all criminals, violent lowlifes, and then even animals. I'm telling the truth, so some suckers are fearing me, but I must do my part to combat the conspiracy. Schools, churches. The SAT is not geared for the lower class, so why waste time even trying to pass? The educational system presumes you to fail. The next place is the corner, then after that jail. You gotta understand that this has all been conspired to put a strain on our brains so that the strong grow tired. It even exists when you go to your church, 'cause up on the wall a white Jesus lurks. They use your subconscious to control your will. They've done it for a while and developed the skill to make you wanna kill even your own brother, man. Black against black, you see it's part of their plan. They wanna send us to war and they wanna ban rap. What they really wanna do is get rid of us blacks. Genocide is for real and I hope that you're hearing me. You must be aware to combat the conspiracy.
In the arts, business, industry.
Even in this rap game, all the glitters ain't gold. Now the rap is big business, the snakes got bold. They give you whack contracts and try to make you go pop, 'cause they have no regard for real hip-hop. They'll compare you to others and say, but yo, he sells. And you know in your heart that he's weak as hell. So you say, I ain't doing that corny stuff. But they tell you that your chart positions will go up. Sometimes they front big time and make you many promises. And then when they break them, that's when your mama says, son, you're making records, but that guy seems shady. It could be too late and your career could be played, G. I hope you listen to the things that I'm sharing, see. We all have a job to combat the conspiracies.